Radio Okapi. Le journal, présenté par Belinda Bossouma.
Crise sécuritaire dans l'Est de la RDC et des États africains montent au créneau pour mettre en exergue leurs pistes de solutions et sortir de la crise. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU mercredi, le Burundi notamment propose un plan de paix reposant sur 5 axes. Et puis ces sanctions imposées par les États-Unis contre James Kabarebe, ministre rwandais de l'intégration régionale, et Laurence Kanyuka, porte-parole du M23, ces deux personnalités ont chacun un rôle dans l'instabilité dans l'Est de la RDC, annonce faite hier dans un communiqué du Trésor américain. Et puis, à Kinshasa, des cas de braquage signalés récemment dans les communes de Matete et Lingwala ravivent les craintes des Congolais. Pour en parler, nous recevons Diabanza Mwananene, l'élu provincial de Matete, parle de l'apport des députés provinciaux pour faire revenir le calme. Madame, Messieurs, bonjour. Des États africains tels que le Burundi, l'Afrique du Sud et le Malawi qui participent directement aux opérations militaires pour mettre fin à la crise sécuritaire dans la partie est de la RDC sont montés au créneau le mercredi 19 février devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre en exergue leurs pistes de solutions pour une sortie de crise. Billy Van Lutumba nous en parle dans ce condensé.
D'emblée, le Burundi rappelle qu'il intervient dans cette crise en RDC en sa qualité de signataire d'un accord bilatéral avec la RDC conclu le 20 mai 2023. Ce pays voisin se dit préoccupé par ce conflit qui persiste dans cette partie de la région des Grands Lacs. C'est partant de ce constat que le Burundi propose un plan de paix qui repose sur 5 axes parmi lesquels
il est impératif que la communauté internationale, y compris les Nations Unies et les acteurs régionaux, s'engage de manière urgente pour prévenir l'escalade du conflit en RDC Nous appelons à une réponse rapide, cohérente et déterminée pour éviter un embrasement régional dont personne ne peut prédire avec précision les conséquences sécuritaires et humanitaires dans la région avec des ramifications possibles sur les autres régions du continent. Il est nécessaire que les forces étrangères non invitées, y compris celles du Rwanda, se retirent immédiatement de la RDC et respectent son intégrité territoriale. Quant au M23, il est impératif que ce groupe, s'il se revendique congolais, intègre le processus de paix intercongolais sous la facilitation du président Uhuru Kenyatta. Il est crucial de renforcer le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et d'assurer un financement suffisant pour les opérations de paix en Afrique.
Sur un autre plan, l'Afrique du Sud et le Malawi qui interviennent en RDC pour le compte de Sami Diarsi déplorent la perte de leurs militaires tués au front et insistent pour une solution diplomatique et politique, en l'occurrence la fusion des processus de Luanda et de Nairobi.
Les États-Unis imposent des sanctions contre James Kabarebe, ministre rwandais de l'intégration régionale, ancien général de l'armée rwandaise, et Laurence Kanyuka, porte-parole du M23. Ces mesures publiées hier visent à sanctionner leur rôle dans l'instabilité et dans l'est de la République démocratique du Congo. Compte rendu de ce communiqué avec vous, Lievin Bwinga.
L'annonce a été faite dans un communiqué du Trésor américain. Selon ce document, James Kabarebe est accusé d'être au cœur du soutien apporté par le Rwanda au mouvement du M23, un groupe armé qui a rapidement étendu son contrôle territorial dans l'est de la République démocratique du Congo et qui est responsable de violations des droits de l'homme. Les États-Unis dénoncent également le rôle économique du ministre rwandais, affirmant qu'il assure la liaison entre le gouvernement rwandais et le M23 et orchestre le soutien de l'armée rwandaise au groupe armé M23. En outre, Kabarebe gère une grande partie des revenus que le Rwanda et le M23 tirent des ressources minérales de la RDC, détaille ce communiqué. De son côté, Laurence Kanyuka, de nationalité congolaise et britannique, est sanctionné en tant que porte-parole du M23. Bradley Smith, sous-secrétaire d'État par intérim chargé du terrorisme et du renseignement financier, a déclaré que l'action de ce jour souligne notre intention de demander des comptes aux principaux responsables et dirigeants comme Kabarebe et Kanyuka qui permettent à l'armée rwandaise et au M23 de mener leurs activités déstabilisatrices dans l'est de la RDC. Ces sanctions entraînent le gel de tous les biens et intérêts de James Kabarebe et Laurence Kanyuka aux États-Unis.
Entre-temps, ici au pays, des coups de feu ont été entendus hier dans l'après-midi à Lubero Centre, nous sommes bien au nord Kivu, alors que toutes les activités se déroulaient normalement depuis le matin. Ces coups de feu ont créé une psychose dans la population, craignant une éventuelle attaque des rebelles du M23. Toutes les activités socio-économiques ont été paralysées. Certains habitants ont commencé à courir dans tous les sens et d'autres ont emprunté la route de Butembo. Contacté, le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, rassure. Il appelle la population au calme. Le colonel parle des militaires indisciplinés et incontrôlés qui ont tiré ces coups de feu après la relève. Colonel Alain Kiwewa explique dans cet extrait choisi par André Kitenge.
Il y a eu une psychose et il y a aussi la panique. C'était dû à un groupe de militaires indisciplinés, non contrôlés également, qu'on est venu relever, qui ont fait que en tirant des balles et tout ça, ça entraînait cette panique et cette psychose auprès de la population. Au niveau du chef-lieu du territoire est calme jusqu'à présent. Moi-même, je suis ici, j'ai fait l'inspection, il n'y a rien absolument. La situation sécuritaire est maîtrisée en ce moment ici. C'est pourquoi je suis passé pour demander à la population et de retourner et de continuer leurs activités habituelles. Nous sommes là, ils aient confiance aux autorités politico-administratives, ils aient confiance aussi à nos forces armées de la République démocratique du Congo et à nos patriotes, les Wazalendo. Nous sommes là pour défendre les Congo. Les Congo nous appartient. Donc tous ensemble, unis, nous serons forts et nous allons bouter cet ennemi dehors.
Restons au nord Kivu. En plus de la guerre, la population du territoire de Beni fait face aux engins explosifs. De plus en plus des cas d'accidents impliquant ces engins, probablement des mines, sont enregistrés sur l'axe routier Eringeti-Kainama, long de 72 kilomètres. Ainsi, les acteurs de la société civile dans la région alertent la population. Ils leur demandent d'être vigilantes et plaident pour la sécurisation de cet axe routier où des mouvements des rebelles des EDF sont signalés depuis le début de cette année. Marc Maro Fimbo nous fait le point.
Le dernier accident a eu lieu mardi dans la région agricole de l'Essé, sur l'axe Eringeti-Kainama, où un agriculteur a marché sur un engin explosif, probablement une mine piégée par les présumés rebelles des ADF, précisent nos sources. La victime, un homme âgé d'une quarantaine d'années, dépêché à l'hôpital général de Beni, a succombé à ses blessures. Deux semaines avant, trois autres accidents similaires ont été signalés entre Maïsafi et Mamanema, sur ce même axe routier, où des civils ont perdu la vie. Cette zone, devenue un passage des ADF, inquiète la société civile qui demande à la population d'être vigilante et au service de sécurité de mieux sécuriser cet axe routier. Bienfait Baraka est le conseiller de la société civile dans le groupement des Banins de Kainama.
Nous appelons la population et surtout les usagers qui fréquentent cette tronçon Eringeti Kainama à la prudence et au service de sécurité de voir comment changer la stratégie de sécuriser la route parce que cette route relie la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri.
Signalons que depuis l'impraticabilité de l'axe routier Beni-Luna-Komanda, l'axe routier Eringeti-Kainama est l'unique voie qui relie à ce jour les territoires de Beni à la province de l'Ituri en passant par les territoires d'Irumu. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Direction Kalemie, une des conséquences de la guerre qui sévit dans le sud Kivu, ce sont des centaines de personnes déplacées qui affluent vers Kalemie par bateau ces derniers jours. Face à cette situation, le gouvernement provincial du Tanganyika a mis sur pied un contrôle rigoureux à chaque débarquement des passagers au port de Kalemie. C'est pour lutter contre toute éventuelle infiltration de l'ennemi. On écoute à ce sujet le ministre provincial de transport et porte-parole du gouvernement du Tanganyika, Barnabé Kintala, est au micro de Paulin Munanga.
Les services de sécurité sont à pied d'œuvre. Ils sont postés au port de Kalemie. Chaque bateau qui arrive par rapport à la situation d'Ouvira, par rapport à la situation du sud Kivu en général, nous avons reçu, c'est vrai, beaucoup de citoyens congolais qui ont décidé de trouver refuge au niveau de Kalemie ou du Tanganyika. Donc on n'a pas de nombre exact, mais sinon je peux vous donner une estimation. Nous recevons une moyenne de 300-400 passagers. Alors il y a des mesures de sécurité vraiment mises en place pour que nous puissions identifier tout celui qui pénètre le sol. Vous savez, tous les Congolais ont des cartes d'identification, des cartes d'électeurs. Tous les Congolais ont différents types de documents qu'ils présentent au port. Alors le contrôle est sérieusement organisé et minutieux pour que nous ne puissions pas être infiltrés.
Et au cours de ce contrôle, il y a des citoyens qui ont été interpellés?
Il y a certaines personnes peut-être qui ont voyagé sans, n'est-ce pas, documents. Et il faudra une procédure pour les identifier. Interpeller signifie peut-être les accuser directement, mais ce n'est pas ça. Ils se présentent au port, ils descendent de bateau et il y a une procédure qui est mise en place pour que nous puissions identifier qui entre sur le sol de la province de Tanganyika.
Rendons-nous en Ituri. L'installation de quelques tentes à la base logistique de la MONUSCO à Bunia a suscité des interrogations chez certains habitants et généré beaucoup de fausses rumeurs dans la ville. Certains ont affirmé que ces tentes sont construites pour faciliter le désarmement des militaires des FARDC à la suite d'un tweet du général chef d'état-major de l'armée ougandaise, tweet qui est devenu viral dans les réseaux sociaux. Afin d'apaiser les esprits et couper court aux rumeurs, une délégation du Parlement des jeunes et des conseils urbains et provincial de la jeunesse a été invité hier jeudi à la base logistique de la MONUSCO, le compte-rendu de Ézéchiel Mouzalia.
Après un entretien d'une heure et demie avec le responsable des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO en Ituri, la délégation s'est rendue à la base logistique de la MONUSCO où elle a pu visiter la dizaine de tentes en cours d'installation, des tentes destinées à servir d'abri au personnel de la mission onusienne en cas d'urgence dans la ville. À l'issue de la visite, Jacques Pellé, le président du conseil urbain de la jeunesse, en a profité pour rappeler la population en général, des jeunes en particulier, à faire très attention aux fausses informations qui circulent dans les réseaux sociaux et qui peuvent susciter des tensions dans la communauté.
Nous avons commencé d'abord par échanger avec l'ingénieur. Selon le plan, il y a 15 tentes qu'on devrait construire ici. Ils ont déjà construit 10. On ne doit pas vraiment céder à cette manipulation. Nous sommes venus lancer ce message fort que les gens ne se laissent pas manipuler par des réseaux sociaux qui sont en train de détruire la province de l'Ituri.
Notez qu'à l'issue de cette visite, il a été décidé d'organiser une journée portes ouvertes dans les prochains jours avec d'autres jeunes de la ville et toute autre personne désireuse de s'imprégner de la situation de cette histoire banale des tentes qui a suscité des fausses rumeurs dans la ville, indique le chef de l'information publique de la MONUSCO, Jean-Toby Okala. Bunia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Dispositif sécuritaire renforcé cette fois sur la route nationale numéro 27, toujours en Ituri. Objectif, sécuriser les usagers et leurs engins, car ils sont souvent victimes d'attaques par des groupes armés, rapporte l'administrateur du territoire de Djougou. Depuis le début de ce seul mois de février, on dénombre déjà une dizaine d'embuscades suivies de morts d'hommes, ce qui a réduit le trafic sur cette route. Reportage de Isaac Remoyope, rendu par Ézéchiel Mouzalia.
Les embuscades contre les véhicules et motos sont enregistrées presque chaque jour depuis début février sur la RN27 qui relie l'Ituri au pays voisin, précise des sources de sécurité. Deux passagers ont été tués il y a 2 semaines à Lingo par des présumés miliciens zaïres. Un camion citerne a également essuyé des tirs vers Tché sans faire des victimes. Mercredi, les membres d'équipage d'un camion d'une entreprise des transports ont été menacés de mort et dévalisés par des Codeco au village de Bethléem. Toutes les attaques, dont celle qui a fait 52 morts à Lindou, proche des Fataki, ont réduit sensiblement les trafics sur cette route nationale. Face à ces défis, l'administrateur du territoire de Djougou a pris certaines mesures, dont le renforcement des patrouilles et la mise en place de plusieurs positions des FARDC le long des états routiers. Le colonel Rufin Mapela.
Nous les avons instruits pour qu'ils puissent renforcer la patrouille sur la route. De la partie, en commençant par Djougou Centre jusqu'à Fataki, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore enregistré des cas parce que les dispositifs sécuritaires mis en place, continuent à effectuer le boulot normalement.
Les conducteurs des engins saluent ces mesures. Ils déplorent cependant des cas isolés des pillages de ces miliciens qui échappent parfois à la vigilance des services de sécurité. Bunia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et puis, les habitants de Kinshasa appelés à l'apaisement et à éviter de tomber dans l'intoxication ainsi que la stigmatisation. L'appel est du gouverneur de la ville, mercredi à l'issue d'une réunion de sécurité avec le vice-premier ministre de l'Intérieur ainsi que des services du secteur. Daniel Bumba rassure que la situation sécuritaire de Kinshasa est calme et que toutes les mesures sont prises pour qu'elle le demeure. Concernant les braquages enregistrés depuis quelques semaines, le gouverneur annonce que les enquêtes se poursuivent. Daniel Bumba annonce qu'un premier groupe est déjà aux arrêts. Suivez cet extrait du message du gouverneur de la ville de Kinshasa, choisi par Babel Mpongo Massimango.
Il s'est propagé beaucoup de faux bruits pour instaurer la psychose, l'intox. Nous profitons de l'occasion pour presser la population de ne pas céder à la stigmatisation, à la division de nos communautés. Kinshasa est stable. Nonobstant quelques faits bénins, des braquages, des infiltrations non autrement identifiées, les enquêtes se poursuivent pour que ces malfrats soient déférés devant les instances judiciaires. Nous profitons de l'occasion pour appeler les Kinois à l'apaisement, à vaquer librement à leurs occupations. Toutes les solutions sécuritaires sont prises. L'armée et la police sont justement là pour accompagner toutes ces mesures. Kinshasa, c'est une ville à 20 millions d'habitants. Et les grandes villes sont très souvent généralisées par la criminalité urbaine. Ce sont des faits bénins. Bien que
on a observé quelques jours les braquages. Il y a un groupe qui est déjà arrêté, déféré à la justice. Nous allons vous les présenter d'ici peu. Nous sommes déjà sur la piste d'autres groupes qui continuent à opérer. Nous assurons à la population que la ville est stable sécuritairement. Il y a encore des dispositions qui ont été renforcées par la police et l'armée afin que nous puissions vivre paisiblement dans la ville.
Actualité internationale.
Des conséquences sont dramatiques pour des millions de personnes après l'arrêt brutal des financements américains pour la lutte contre le VIH-Sida en Afrique, ce à la suite de la suspension de l'USAID. Ce programme initié par le président George Bush a permis de sauver des vies en offrant des traitements et des services médicaux aux populations vulnérables. Cependant, cette aide a été suspendue par le nouveau président américain Donald Trump dans le cadre de son gel de 90 jours des financements étrangers.
L'invité.
Alors que l'insécurité continue de préoccuper les habitants de Kinshasa, des cas de braquage dans la commune de Matete et récemment à Lingwala viennent raviver les craintes des Congolais. Quelles sont les réponses des autorités face à ces incidents troublants? Quelles solutions peuvent être mises en œuvre pour garantir la sécurité des citoyens? Comment les députés provinciaux peuvent contribuer à faire revenir le calme? Ben Chokuta s'est entretenu à ce sujet avec Diabanza Mwananene, élu provincial de Matete. Suivez.
Bonjour Monsieur Diabanza Mwananene.
Bonjour. Actuellement, à Kinshasa, il y a le point de l'insécurité qui commence à prendre de l'ampleur, et plus particulièrement le braquage. Quel est votre avis par rapport à tout ce qui se passe?
Je me dis quelque part, cette déliquescence sécuritaire est de la responsabilité première de nous politiques. Il y a un problème avec la culture politique congolaise. On refuse réellement d'accepter la démocratie telle qu'il le faut. Il y a beaucoup de politiciens véreux qui sont en train de croire qu'il est important dans le contexte de notre pays, après les élections, qu'il y ait de dialogue, un autre dialogue. Et je suis d'avis, et je crois, beaucoup de gens doivent aussi le comprendre, c'est quelque chose de voulu, de la manipulation, pour la simple bonne raison que l'on veut réellement créer une certaine psychose. Je profite encore une fois de plus pour interpeller réellement les ministres de l'Intérieur. Même si nous le savons tous, il y a de ceux-là qui sont en train d'estimer qu'il doit y avoir nécessairement un dialogue. Il faut aussi qu'ils puissent prendre à bras le corps ses responsabilités. Nous devons anticiper, en tant qu'organisation étatique, anticiper et mettre hors état de nuire tous ceux-là qui sont en train d'estimer que dans le contexte actuel, le meilleur moyen d'exprimer leur opinion, c'est la violence, le vandalisme et se mettre dans le crime organisé.
À vous entendre parler, c'est comme si vous reliez les braquages qui a eu lieu à Lingwala particulièrement et puis ici, devant le marché de Matete. C'est comme si vous voulez le relier à tout ce qui se passe dans l'est de la RDC.
Je vous assure, ce qui se passe à l'est de la RDC, oui, il y a cette dimension de Kagame, mais il y a une dimension du politique congolais en mal de positionnement qui est en train de croire pour lui. Avant de rentrer aux affaires, il faut créer le désordre pour qu'il y ait nécessairement un dialogue. Et le dialogue, nous en avons connu. Et le politicien congolais, malheureusement, il n'est pas suffisamment rodé dans l'exercice démocratique.
Et vous, en tant que député provincial, quelle initiative avez-vous prise ou quelle initiative soutenez-vous au Parlement et pour mettre fin à cette insécurité?
Durant cette vacance parlementaire, je crois que chacun d'entre nous est en train de travailler parce que nous ici, nous étions déjà victimes. Ici, chez nous, à Kinmarché, nous étions déjà victimes. Et de ce que nous avons réellement vécu, nous avons tenté déjà de saisir l'Assemblée provinciale lors de notre rapport aussi. Par rapport aux vacances parlementaires, c'est un document que nous allons réellement introduire qui va faire allusion de ce que nous avons vécu ici chez nous. Et par rapport à cela, c'est sûr que le ministre de l'Intérieur provincial sera interpellé parce que le ministre de l'Intérieur provincial nous doit aussi des explications. Comme je suis en train de le dire, ils sont dans l'obligation d'anticiper.
Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à toutes les opérations qui ont été lancées avant même qu'il y ait la récrudescence de braquage? Opération Dobo et toutes les autres opérations. Est-ce qu'on peut sentir une efficacité par rapport à cela?
Oui, l'opération Dobo, Zéro Kuluna, a donné de ses fruits. Ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est tout à fait différent du phénomène Kuluna. Le phénomène Kuluna, ce sont de jeunes gens qui ne sont pas professionnels, qui opèrent avec des armes blanches. Mais ici, nous sommes en train de voir réellement des gens qui sont en train d'opérer avec des armes à feu. C'est deux situations différentes. Et par rapport aux images qui sont en train de circuler, s'il faut réellement observer, vous remarquerez que ceux-là qui sont en train d'opérer sont beaucoup plus de gens très âgés, à la différence avec le jeune gens du banditisme urbain, communément appelé Kuluna.
Bon, pour finir, est-ce qu'il peut y avoir une collaboration, vous proposez une collaboration entre le gouvernement et la population, mais aussi toutes les couches de la société civile?
Dans le contexte actuel, nous devons réellement nous souder en premier lieu en tant que peuple, parce que vous devez comprendre, les dangers qui sont en train de nous guetter ne va seulement pas concerner la population, c'est aussi nous le politique, parce que nous vivons avec eux, nous ne vivons pas dans la planète Mars. Il est important dans le contexte actuel que nous puissions réellement nous unir, lever les options. Cette cohésion nationale, nous en avons besoin. Il faut la vigilance de la population dans la ville-province de Kinshasa.
Merci à vous, monsieur le député provincial Diabanza Mwanene.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.